Il y a plusieurs sujets mentionnés au début de la Bible, en Genèse, qui reviennent, pour ainsi dire, plus tard dans la Bible, vers la fin. Il y a, par exemple, le jardin d'Éden, qui est mentionné. Bien sûr, avec ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, l'homme n'avait plus accès. Et les conditions du jardin d'Éden, les conditions physiques, vont revenir. Mais la question, par exemple, dans Ésaïe 51, verset 3, je cite, Ésaïe 51, verset 3, « Son désert sera semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. » Donc vous avez Éden au début, le paradis, et les conditions d'Éden reviennent au cours du millénium, au début du millénium. Vous avez aussi la référence dans Ézéchiel 36, on dira « Cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. » On retrouve donc Éden, façon de parler, on retrouve Éden dans le millénium. Autre chose que nous avions, que la Bible mentionne tout au début, c'est l'arbre de vie. L'arbre de vie, l'homme aurait pu avoir accès à l'arbre de vie s'il n'avait pas péché. Et nous retrouvons l'arbre de vie qui est mentionné dans Apocalypse 22, où il y a des fleuves d'eau de la vie qui sortent du trône de Dieu et de l'agneau. Et sur les deux bords du fleuve, un arbre de vie. Sur les deux bords du fleuve, un arbre de vie. On retrouve donc dans Apocalypse. Adam et Ève, quand ils étaient dans le jardin d'Éden, communiquaient avec Dieu. Il y avait une proximité. Ils étaient proches de Dieu physiquement et ils n'avaient pas encore péché. Et Dieu dit dans Ézéchiel 37, quand il va ramener Israël dans leur pays, il va former une seule nation, ma demeure sera parmi eux. Dieu sera là, il y aura de nouveau cette proximité. Et comme c'est marqué dans Ézéchiel 37, verset 27, ils seront mon peuple. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que il y a un autre exemple dans la Bible qui est mentionné dans Genèse chapitre 14, plus précisément, qui décrit un tas de faits, une situation qui existait à l'époque. Il s'agit de Jérusalem, plus précisément ce que la Bible appelle Salem à l'époque. Et nous sommes familiers avec Genèse chapitre 14, verset 18, là encore je le cite seulement, en parlant de Melchizedek. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter, du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Et aujourd'hui, j'ai voulu vous parler de Jérusalem. Et j'ai voulu vous parler de Jérusalem en prophétie. Détailler un certain nombre de prophéties qui concernent Jérusalem. On va peut-être commencer avec le mot Jérusalem, qui veut dire, qu'on peut traduire en français par fondement de la paix. Fondement de la paix. Et comme j'ai dit tout à l'heure, nous trouvons, dans la Genèse chapitre 14, Melchizedek, roi de Salem, et on va regarder, et Salem entre parenthèses, en hébreu c'est Shalem, et Shalem, on connaît un mot très similaire, et ça veut dire littéralement Salem ou Shalem, ça veut dire littéralement paix ou paisible. Paix ou paisible. Mais revenons à Hébreux chapitre, allons à Hébreux chapitre 7, verset 2, parce que nous voyons ici un peu plus de détails à propos de Salem, à propos de Melchizedek. Hébreux chapitre 7, et le verset 2. Hébreux chapitre 7, et le verset 2. On parle donc de Melchizedek, dans le verset 1. En effet, c'est Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout. Qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, donc Melchizedek, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et en bas de votre Bible, peut-être vous avez une annotation, Salem, d'un mot hébreu qui signifie paix et salut. Et dans Psaume 76, verset 2, nous voyons que Salem est associé avec Sion. Je crois que c'est Sion qui est mentionné. Juste pour regarder ça, juste en Psaume 76, le verset 2. Psaume 76, le verset 2, où on lit ceci. Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël, sa tente est à Salem, et sa demeure à Sion. Donc, il associe ces deux choses ensemble. Donc, Jérusalem, qui est mentionné ici au début, et vous avez, comme j'ai dit, deux choses qui sont mentionnées à propos de ce Jérusalem, c'est Melchizedek. Melchizedek, qui veut dire, donc, roi de justice, et Salem, roi de paix. Donc, la justice et la paix qui sont mentionnées, qui vont de pair. Et par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, nous allons retrouver ceci par la suite, plus tard dans la prophétie. Nous allons, par exemple, si nous allons à Zacharie, chapitre 9, verset 9, dans ce sermon, je vais surtout me servir de Zacharie, pour illustrer certaines prophéties à propos de Jérusalem. Zacharie, chapitre 9, verset 9. Déjà, donc, c'est une prophétie à l'avenir qui n'a pas encore été réalisée. Verset 9. Zacharie chapitre 9, verset 9. « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. » Roi juste, qui pratique la justice. « Il est humble et monté sur un âne, le petit de l'ânesse. » Verset 10. « Je détruis les chars d'Ephraïm et les chevaux de Jérusalem, et les actes de guerre sont anéantis. » Il annoncera la paix aux nations. C'est ce que le Christ va faire quand il revient. Vous avez donc déjà ces deux choses qui reviennent, que nous venons de voir dans Hébreux 7. Nous avons la justice, juste, et nous avons aussi la paix. Deux choses qui vont caractériser le règne du Christ. Et nous allons revoir ça par la suite dans le sermon. Mais Jérusalem était déjà, à l'époque de l'Ancien Testament, très important aux yeux de Dieu. Il y a un certain nombre de passages, là aussi, je m'y rapporte pas, je les cite, dans Ésaïe 62, « Pour l'amour de Jérusalem, parce que Dieu aime Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. » Zacharie 8, 3, « Je retourne à Sion, et je veux habiter au milieu de Jérusalem. » Donc, Dieu exprime d'une part son amour, et Dieu exprime aussi le fait qu'il veut habiter au milieu de Jérusalem. Zacharie 8, verset 3. Et il y a l'autre référence, bien sûr, que nous connaissons dans Ésaïe, chapitre 2, verset 3. « Car de Sion, à propos de Millennium, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Je vais vous parler de prophétie, Jérusalem en prophétie dans ce sermon. Il ne faut pas oublier ceci dit, qu'il y a des prophéties qui ont déjà été réalisées. Des prophéties qui sont devenues déjà l'histoire, qui ont déjà été accomplies, déjà été réalisées. Nous avons à l'époque de David, à l'époque de Salomon, on dit ceci, ce sera lui qui me bâtira une maison, donc Salomon. Et un roi chapitre 11, nous voyons d'autres versets, des prophéties donc associées avec Jérusalem. Un roi chapitre 11, verset 13. Un roi chapitre 11, verset 13. intéressant de voir ce que Dieu dit à propos de Jérusalem. Déjà à l'époque, c'est un constant. Cet amour de Dieu pour Jérusalem. Verset 13. Je m'arracherai cependant par tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils, pardon, à David, à cause de David, mon serviteur, et à cause de... c'est pas David ici, c'est à l'époque justement de Salomon, avant sa mort, quand Salomon a commencé à pécher. Verset 13, je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils, à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. À cause de Jérusalem que j'ai choisi. Dieu a choisi Jérusalem, et comme j'ai dit, c'est un constant. Verset 32. Mais il y aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Ceci est répété à plusieurs reprises. Verset 36. Je laisserai une tribu à son fils afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Et puis, il y a une autre écriture que je peux citer. Là, cette fois-ci, on va s'y rapporter. C'est dans 2 Rois, chapitre 19, verset 34. 2 Rois, chapitre 19, et le verset 34. Dieu ne change pas. Il y a toujours cet amour, toujours cet amour profond pour Jérusalem. Ce choix de Jérusalem, 2 Rois chapitre 19 verset 34, il s'agit ici d'un roi juste, et Dieu protège Jérusalem des Assyriens. Je protégerai cette ville pour le sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Même à l'époque de Manassé, Dieu dit, et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux, et ça c'est intéressant ici, que je veux à toujours placer mon nom. Et Dieu va continuer à placer son nom. Donc comme je dis, il y a des prophéties qui sont devenues histoire. L'époque des Babyloniens, l'époque de Daniel déjà, il priait, vous rappelez, tourner vers Jérusalem. Il y avait cet attachement. Et puis dans Zacharie, chapitre 1, et le verset 17. Zacharie, chapitre 1, et le verset 17. Dieu ne rejette pas Jérusalem à toujours, même si il y aura, à travers l'histoire, de grandes souffrances. Zacharie, chapitre 1, verset 17. Commençons avec le verset 16. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau, verset 17, et dit ainsi par l'Éternel des armées, mes villes ont encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. Parce que Dieu est Dieu et parce que Dieu a choisi Jérusalem. Qu'il y aura à travers les années, et c'était prophétisé, sa part de souffrance. Zacharie chapitre 2, verset 10. Zacharie chapitre 2, verset 10. Pousse tes cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi. Donc, on a vu tout à l'heure que Dieu voulait habiter au milieu de Jérusalem. Dieu va le faire, car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel dans ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. Le nombre de fois que ça revient, cette phrase, d'une façon ou d'une autre, il choisira encore Jérusalem. Le verset 13 est intéressant dans ce contexte, quand Dieu va revenir, quand Dieu va choisir, quand Dieu va s'installer à Jérusalem, quand le Christ va s'installer à Jérusalem. Verset 13, que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il sera veillé de sa demeure sainte. Fasse silence parce qu'à cause de ce grand événement, parce que la terre devrait anticiper justement ce grand événement. Il y a une prophétie à propos de Jérusalem qui a déjà été réalisée, qui est particulièrement difficile et qui se trouve dans Luc chapitre 19. C'est le Christ qui l'a prononcée. Comme je dis, la prophétie, c'est pas uniquement ce qui est encore venu. La prophétie, certaines choses ont déjà été réalisées. Si vous aimez l'histoire, et vous voulez faire une étude à propos de prophétie qui a déjà été réalisée, vous n'avez qu'à prendre Daniel chapitre 11. Parce que la plus grande partie de Daniel chapitre 11, c'est une prophétie qui a déjà été réalisée. Alors, Luc chapitre 19, verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en le voyant, pleura sur elle. Il y avait l'émotion. Et il dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais la chose qui appartient à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi à l'avenir. Il viendra sur toi les jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu étais visité. Et ça, c'est réalisé à l'époque de Tite. Il y a Joseph, l'historien, qui est allé du côté des Romains, qui nous donne un certain nombre de détails à propos de ces événements. Quand les Romains, suite à la révolte des Juifs, qui ont détruit Jérusalem, ils ont construit un mur tout autour de la ville pour empêcher les Juifs de sortir. Ils ont enfermé les Juifs. Résultat, il y a eu la famine dans la ville et avec des conséquences terribles. Avec des conséquences terribles, et bien sûr, il y avait la destruction de Jérusalem. C'est aussi, il y a aussi la dualité dans ce contexte où dans Matthieu chapitre 24, où il a aussi parle de la destruction de Jérusalem avec l'abomination de désolation en lieu saint. Et ça, c'est donc pour l'époque de la fin. Mais avant la restauration, il y a la punition. Zacharie chapitre 12, verset 2. Zacharie chapitre 12, verset 2. Comme c'est marqué dans Joël, le jour du Seigneur, c'est un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillards. Et donc, Jérusalem va encore souffrir à l'avenir. Zacharie, chapitre 12, verset 2. Zacharie, chapitre 12, verset 2. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. Et en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. À leur malheur, justement. À leur malheur, ils vont souffrir. Verset 9. Verset 9. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Encore beaucoup de souffrance. Verset 10. Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem. Un esprit de grâce. Donc Dieu va intervenir à un moment donné. Un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ils vont faire preuve, à ce moment-là, quand Dieu va intervenir, ils vont faire preuve d'une foi. Parce que c'est marqué ici, ils tourneront les regards vers moi. C'est une question de foi. Et Dieu va accorder un autre esprit. Dieu va accorder un esprit de repentir. Alors, si nous regardons Psaume 84, verset 12, c'est marqué ici, Dieu va répandre un esprit de grâce et de supplication. Et la grâce n'est pas donnée à quelqu'un qui a l'esprit hostile et rebelle, qui continue à aller contre Dieu. La grâce, c'est un pardon non mérité. Psaume 84, verset 12. Nous lisons ceci. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. C'est Dieu qui donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bienfait à qui? À ceux qui marchent dans l'intégrité. Évidemment, quelqu'un qui est rebelle, quelqu'un qui est hostile, à moins que Dieu change son esprit, il ne va pas bénéficier d'un esprit de grâce. Nous voyons aussi dans Proverbes chapitre 3, verset 34. Comment est-ce que nous trouvons grâce aux yeux de Dieu? Nous trouvons grâce aux yeux de Dieu quand on se comporte d'une certaine façon. Nous trouvons grâce aux yeux de Dieu, par exemple, quand nous nous reportons. Proverbes chapitre 3, verset 34. Dieu n'accorde pas sa grâce à n'importe qui. Nous avons donc ici un changement mentionné dans Zacharie 12, un changement de situation. Verset 34. Proverbes chapitre 3, verset 34. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce qui? Aux humbles. Pas quelqu'un qui est hostile, pas quelqu'un qui est orgueilleux. Dieu fait grâce aux humbles. Donc, il va y avoir la guerre. Il va y avoir la guerre avec sa cohorte de souffrance. Dieu va intervenir dans les affaires humaines. Dieu va intervenir aussi, faire en sorte que certaines prophéties s'accomplissent à Jérusalem. Dans Zacharie chapitre 14, le verset 1. Voici le jour de l'Éternel arrive, l'intervention de Dieu, et tes dépouilles sont partagées au milieu de toi. Et je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem, les villes soient prises, les maisons soient pillées et les femmes violées. La moitié de la ville est en captivité. Les souffrances de Jérusalem ne sont pas terminées. Loin s'en faut. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Dieu va juger les nations. Verset 3. L'Éternel paraîtra et il combattra ses nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem et du côté de l'Orient. Et je m'arrête là parce que une chose qui ressort ici dans le verset 2 et le verset 3, surtout, c'est le fait que les nations vont apprendre, ou peuvent apprendre, qu'ils ne peuvent pas s'opposer à Dieu. Dieu agit en maître suprême. Dieu accomplit son dessein. Job, d'une certaine façon, a pris ça. Les nations vont apprendre ça, s'ils le veulent. Et nous, c'est une des grandes leçons dans notre vie. C'est qu'on ne peut pas s'opposer à Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Psaume 115, verset 3. Et parfois, la volonté de Dieu, ce n'est pas la même chose que ce que nous avions en tête comme projet. Psaume 115, verset 3. Nous avons nos projets, c'est normal. Mais la conversion consiste également au fait de se soumettre à Dieu pour que sa volonté soit faite dans notre vie. Psaume 115, verset 3. Et les nations vont pouvoir voir que c'est ce qui compte, ce qui va se réaliser, c'est la volonté de Dieu. Psaume 115, et le verset 3. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Et quand les hommes s'opposent à Dieu, ils ont des problèmes. des grands problèmes. Zacharie, chapitre 14. Je reviens à Zacharie 14 et le verset 2. Verset 12, pardon. Verset 12. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui ont combattu contre Jérusalem. Verset 13. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre et ils lèveront la main les uns sur les autres. Et c'était souvent été comme ça, enfin, à plusieurs reprises, que Dieu a permis que justement les ennemis d'Israël commencent à se battre les uns contre les autres. Vous avez une référence dans Juges chapitre 7. Saul avec les Philistins à un moment donné, c'était le même cas de figure. Et Josaphat avec les enfants d'Ammon, Moab et ceux de la maison de Seir. Vous savez, vous trouvez ceci dans 2 Chroniques chapitre 20 et le verset 22. 2 Chroniques chapitre 20, verset 22. Mais c'est le même Dieu. Il ici intervient de la même façon. Verset 13. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux, l'un saisira la main de l'autre, et ils lèveront la main les uns sur les autres. Judas combattra aussi dans Jérusalem, et l'on ramassera les richesses de toutes les nations d'alentour, l'eau, l'or, l'argent, et des vêtements en très grand nombre. Il y aura la splendeur à Jérusalem à l'avenir. C'est normal. C'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs qui vient à Jérusalem. Et il aura les richesses d'un roi des rois et de seigneur des seigneurs. Verset 15. La plaie frappera de même les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans ses camps. Cette plaie sera semblable à l'autre. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Ésaïe, chapitre 11, et le verset 4. Ésaïe, chapitre 11, et le verset 4. Dieu va intervenir. Il va intervenir avec justice. Verset 4. Ésaïe chapitre 11, verset 4. Il jugera les pauvres avec équité, il prononce avec droiture sur les malheureux, de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Dieu va intervenir pour le bien des gens. Mais cette guerre, l'intervention du Christ avec, contre les nations qui sont hostiles, aura une fin. Aura une fin, et nous voyons dans Ésaïe 40, verset 1, Ésaïe 40, verset 1, cette même émotion que ce que nous avons vu tout à l'heure. On a parlé tout à l'heure de quand que Dieu a choisi Jérusalem, et c'est un constant. Il envoie donc cette même amour dans Ésaïe chapitre 40, et verset 1. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie. Cette période de souffrance va arriver à sa fin. Que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Jérusalem a énormément souffert à travers les années, à travers les siècles. Et encore, je ne vous ai même pas parlé de la souffrance de Jérusalem au Moyen-Âge. Verset 10, Ésaïe, chapitre 40, verset 10. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande, voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Quand le Christ va revenir en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, et quand la crise va revenir, même la topographie de Jérusalem, la topographie des lieux, va changer. Ça va changer. C'est ce que nous voyons dans Zacharie, chapitre 14, verset 4. Zacharie, chapitre 14, et le verset 4. Quand le Christ revient, il revient sur le montagne des Oliviers, juste à l'est de Jérusalem. Ses pieds se poseront ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Donc il va y avoir un changement topographique assez important. Une vallée qui va aller de l'Est à l'Ouest, ou l'Ouest à l'Est. Ce sera complètement différent. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une moitié vers le midi. Donc vous avez un écartement, et vous avez la vallée au milieu, Est-Ouest. Verset 5. Vous fuirez alors de la vallée des montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, au temps d'Ozias, roi de Juda, et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Ça situe bien le contexte, ça situe bien l'événement quand les saints vont revenir avec le Christ. Chapitre 14, toujours verset 8. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, ce sera le siège. Le Christ va revenir à Jérusalem. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, puisqu'il y a cette vallée, et moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. Ce sera peut-être exceptionnel ou différent, parce que dans ces pays-là, où il fait plus sec, plus chaud, c'est pas toujours évident d'avoir une rivière qui coule tout autour tout au long de l'année. Et le Christ va revenir donc en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Dans Ézéchiel chapitre 47, nous avons un peu plus de renseignements à ce sujet, à propos de cette rivière déjà, et à propos de son origine. Dans Ézéchiel chapitre 47, verset 1. Ézéchiel chapitre 47, verset 1. Une vision donc de l'avenir. Il me ramènera vers la porte de la maison, et voici les eaux sortent de la maison, donc de Dieu. Il me ramènera vers la porte de la maison, et voici l'eau sortie sous le seuil de la maison à l'Orient. Car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Et cette eau qui sort va rapidement devenir quelque chose de beaucoup plus grand, au point que dans le verset 5, nous voyons ceci décrit comme un torrent. Verset 5. Il mesurait encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Donc il y avait une force, il y avait l'abondance. Et cette eau qui sort donc du trône de Dieu, de la maison de Dieu, bien sûr, était à la fois physique, mais c'était aussi spirituel dans sa dimension. Parce que cette eau symbolisait, ou va symboliser, le Saint-Esprit. Et cette eau donc qui sort du trône de Dieu symbolise, va symboliser le Saint-Esprit qui est offert à ce moment-là à tout le monde. Verset 8. Et c'est intéressant de voir ce que cette eau produit. Ézéchiel chapitre 47, verset 8. Ça produit la guérison. Le Saint-Esprit nous guérit. Les Saint-Esprit ou l'eau qui sort de Dieu symbolise le Saint-Esprit, ils vont guérir. Ils vont guérir physiquement, ils vont guérir aussi mentalement, spirituellement. Verset 8. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Si c'est une eau qui sort de Jérusalem, et qui va à l'Orient, c'est oriental, oui, oriental, donc il va à l'est, il va descendre à l'extrémité de la mer morte, qui est extrêmement salée. Il va devenir saine. C'est ce qui est marqué à la fin du verset 8. Et les eaux de la mer deviendront saines. Tout comme nous, quand on reçoit le Saint-Esprit, ça nous permet de raisonner correctement. Ça nous permet de raisonner sainement. Ça nous guérit. Verset 10. Les pêcheurs se tiendront sur ces bords depuis Engedi jusqu'à En Eglaïm. On étendra les filets, il y aura des poissons, donc c'est plus la mer morte. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la mer, de la grande mer. Ils sont très nombreux. Engedi se trouve, si vous regardez une carte, à la fin de votre Bible, vous verrez qu'Engedi se trouve à peu près au milieu de la mer morte. Verset 12. Sur le torrent, sur les bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, parce que c'est un eau qui apporte, c'est un eau qui guérit, c'est un eau qui fait du bien. Toutes sortes d'arbres fruitiers, le feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin, ils mûriront tous les mois, ça aussi c'est quelque chose de différent, tous les mois, parce que, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'exceptionnel. Parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Ils viennent de Dieu. Ils viennent de Dieu. Le fruit serviront de nourriture et la feuille de remède. Ça vient de le sanctuaire de Dieu. Remède, c'est quelque chose qui guérit. Zacharie, chapitre 14, verset 10. Zacharie, chapitre 14, verset 10. Autre changement, point de vue topographie. Zacharie chapitre 14 verset 10. Tout le pays deviendra comme la plaine de Geba à Rimmon, au midi de Jérusalem, et Jérusalem sera élevé. Jérusalem qui se trouve déjà à peu près à 800 mètres. Jérusalem sera élevé et restera à sa place. Et tout le pays deviendra comme la plaine de Geba à Rimmon. Actuellement, c'est pas le cas. C'est pas le cas, donc la topographie va changer, peut-être le climat aussi. Et une fois que ces événements auront lieu, Jérusalem peut être restaurée. Il y a les richesses des nations qui vont venir dans Ésaïe chapitre 60. Par exemple, le verset 13, nous lisons dans Ésaïe chapitre 60 et le verset 13. Et on comprend pourquoi les richesses vont venir à Jérusalem. Parce que Dieu lui dit pourquoi, dans Ésaïe 60, verset 13, « La gloire du Liban viendra chez toi, le cypress, l'orme et le buis, tous ensemble, pourquoi? Pour orner le lieu de mon sanctuaire, parce que Dieu est là, pour orner le lieu de mon sanctuaire, donc à Jérusalem. Pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. » On sait où Christ repose ses pieds, c'est Jérusalem. Et donc, Dieu dit, ces choses-là vont venir pour glorifier la place où reposent mes pieds. Les richesses dignes d'un roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, dans sa majesté, dans sa gloire. Chapitre 1, je reviens encore une fois à Zacharie 14, vous voulez peut-être garder votre place. Je ferais mieux le faire autant. Dans Zacharie, chapitre 14, et le verset 16. Donc, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. « Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. » Et bon, Jérusalem, à ce moment-là, va être un centre pour accueillir toutes ces nations, même si c'est seulement des représentants des nations. Verset 20. En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, sainteté à l'Éternel, et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme les coupes devant l'autel. Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Dieu sera là, il y aura un culte à Dieu, les gens vont progressivement se tourner vers Dieu. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes, et il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Zacharie, toujours, 14, verset 11. On habitera dans son sein, Jérusalem, et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. Le mot interdit, traduit en français par interdit, c'est le même mot que nous trouvons dans Malachie chapitre 4, verset 6, avec lequel nous sommes plus familiers. Mais il est intéressant, je vous ai parlé des choses qui reviennent, il est intéressant de constater que la phrase « en sécurité », nous le trouvons déjà dans Lévitique 26, verset 5. Vous vous rappelez le fameux chapitre, des deux chapitres qui parlent des bénédictions et des malédictions. Et dans Lévitique 26, verset 5, il est question justement d'habiter en sécurité. Ézéchiel en parle beaucoup dans le contexte à partir du chapitre 34, verset chapitre 38 aussi. Il est mentionné, c'est mentionné dans Apocalypse 20, parce que Dieu veut habiter avec son peuple et il veut que Jérusalem soit en sécurité. Et ici, c'est marqué, Jérusalem sera en sécurité. Une description de Jérusalem à l'époque, une fois que le Christ est revenu, nous le trouvons dans Zacharie chapitre 2. Mais il y a quelques détails ici qui sont intéressants. Zacharie chapitre 2, verset 1. Zacharie chapitre 2, verset 1. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici l'ange qui me parlait s'avance, et un autre ange vint à sa rencontre. Il me dit, cours, parle à ce jeune homme, et dit, futur, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Si nous regardons Ézéchiel 38, Ézéchiel 38, le contexte, donc le millénaire, nous avons quelques précisions à propos de cette Jérusalem. Ce Jérusalem à l'avenir. Ézéchiel 38, le verset 8. Vous vous rappelez, c'est la prophétie contre Gog et Magog, qui veut s'emparer des richesses. Une fois que le pays à Jérusalem et le pays autour de Jérusalem sera en sécurité, il dit verset 11, tu diras, Gog et Magog, je monterai contre un pays ouvert, je fondrai sur des zones tranquilles, en sécurité dans le demeure, tous dans des habitations sans murailles, et n'ayant ni verrues ni portes. J'irai faire du butin, me livrer au pillage, porter la main sur les ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli au milieu des nations, ayant des troupeaux, et des propriétés, et occupant les lieux élevés du pays. Sans murailles. Ayant des troupeaux et des propriétés. Le Cherokee traduit ça par les cheptels. Et Darby, à cause de la multitude des hommes ou des bétails qui sont au milieu d'elles. Et nous venons de voir dans Zacharie 2, verset 4, que Jérusalem sera une ville ouverte, donc pas besoin de murailles, à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui sont au milieu d'elle. Vous vous rappelez probablement que dans le millénaire, il y aura des sacrifices. Il y aura des sacrifices physiques. Et ce sera, bon, c'est quelque chose que je dis entre parenthèses ici. À mon sens, ce sera beaucoup plus facile de faire les sacrifices si vous avez le bétail à portée de main, si je puis dire. Plutôt que d'aller chercher qu'est-ce qui se passe maintenant, vous avez les villes qui sont bien séparées de la campagne. Au point que les enfants sont tout étonnés, certains enfants émerveillés de savoir et d'apprendre que le lait vient de la vache. Et vous avez une autre situation ici. Vous avez et des hommes une multitude des hommes et du bétail. Comme j'ai dit, c'est beaucoup plus facile. De nos jours, on transporte les pauvres vaches dans les bétaillères. Alors, je pense, à mon sens, qu'elles doivent souffrir. Mais quand nous étions dans le nord de la France, on avait le privilège, à côté de la maison, il y avait un champ. Et il y avait des vaches, et même un taureau dans le champ. Ça allait bien jusqu'au jour où Lara est allée avec son petit manteau rouge au fond du champ, et le taureau l'a aperçu. Il commence à gratter le sol, alors je savais ce qui allait se produire si Lara ne retournait pas à la maison. Alors Zacharie, chapitre 8, verset 2. Il y avait une clôture, mais face à un taureau. Zacharie, chapitre 8, verset 2. Donc Dieu veut habiter, c'est son désir, c'est ce que nous avons déjà vu. Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Zacharie, chapitre 8, verset 2. Chapitre 8, verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému pour Sion d'une grande jalousie, et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. Verset 3. Ainsi parle l'Éternel, je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. C'est ce que Dieu veut et c'est ce que Dieu va faire. Jérusalem sera appelée ville fidèle, ou dans le Darby et le Martin parle de ville de vérité. Évidemment, si Dieu est là, c'est la vérité qui va sortir de Jérusalem. Ville de vérité et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Ce sera la ville de Dieu. La montagne est aussi un symbole du gouvernement. Verset 4. Ainsi parle l'Éternel des armées, des vieillards et des femmes âgées s'assiront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main, à cause du grand nombre de leurs jours. On peut parler de nos jours d'un conflit de générations. À l'avenir, il y aura de l'entente, il y aura du rapprochement des générations, il y aura un partage. Il y aura une ambiance de paix sans que les gens redoutent la violence. Verset 5. Les rues de la ville sont remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Donc les enfants vont faire ce qu'un enfant fait, ils vont jouer. Et les personnes âgées ne sont pas enfermées dans des maisons de retraite. Il y aura harmonie, cohabitation. C'est le cas de le dire, verset 6. Ainsi parle l'Éternel des armées, si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ce peuple en ces jours-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux, dit l'Éternel des armées, parce que Dieu peut tout faire, tout est possible à Dieu. Verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées, voici je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai. Et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Et l'accomplissement final, donc, c'est quand ils sont vraiment son peuple. Verset 8, ils sont mon peuple, et je serai leur Dieu, avec vérité et droiture. Avec vérité et droiture. Il y aura la gloire de Dieu, à ce moment-là, quand le Christ revient. Vous vous rappelez c'est déjà mentionné dans Lévitique, et vous rappelez quand le temple ou le tabernacle a été érigé, que la Bible parle de la gloire de l'Éternel qui remplit le tabernacle. Vous avez la gloire de Dieu. Et qui remplit le tabernacle, ça vous trouvez ça dans Exode chapitre 40. Quand Salomon a dédié le temple, dans 2 Chroniques chapitre 7, nous trouvons la même chose. 2 Chroniques chapitre 7. Il y avait la dédicace du temple. Verset 2. Les sacrificateurs, verset 2, les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé et se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car ses miséricordes durent toujours. Si c'était le cas à l'époque, vous imaginez bien que ça va être à plus forte raison le cas à l'avenir. Et dans Ézéchiel, effectivement, Ézéchiel chapitre 43, et le verset 5, c'est ce que nous trouvons. Dans Ézéchiel chapitre 43 et le verset 5. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans la maison, dans le parvis intérieur, pardon. Et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Parce que Dieu sera là, en toute sa splendeur, toute sa gloire, et la gloire de Dieu va remplir la maison. Il y a un autre changement qui sera spectaculaire quand le Christ va revenir. Il va y avoir une nouvelle configuration. C'est que Dieu va enlever justement le voile qui voile tous les peuples et Dieu va pouvoir, Dieu va le faire, dans Zacharie chapitre 2 verset 11, Dieu va enlever ce voile pour que les gens puissent s'attacher à lui. Zacharie chapitre 2 verset 11. Zacharie chapitre 2 verset 11. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel. Évidemment, si le voile est enlevé, s'ils ont accès ici, à Dieu, s'ils comprennent maintenant, s'ils sont plus séduits par Satan qui ne sont pas là, beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là, ils deviendront mon peuple. Donc la conversion est ouverte pour que les peuples, dans leur ensemble, puissent avoir accès à Dieu. Ils vont pouvoir être l'Israël de Dieu. Et c'est ce qui compte. Ils deviendront mon peuple, j'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Zacharie, chapitre 14, verset 16. Zacharie, chapitre 14, verset 16. C'est marqué aussi dans Ésaïe, je n'y rapporte pas, mais dans Ésaïe, chapitre 11, les nations se tourneront vers lui. Il y aura la vérité qui va sortir de Jérusalem et les gens vont se tourner vers Dieu. Zacharie, chapitre 14, verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Changement de situation. Les nations qui étaient hostiles maintenant vont se tourner vers Dieu. Verset 17, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Et Dieu va donner un exemple. Je vais terminer avec une écriture parce que j'ai parlé au début de ce sermon. Comme il y a des choses qui reviennent, dans Jérémie chapitre 3, 33, verset 16, des choses qui reviennent, pour ainsi dire, comme avant. Et c'est le cas ici pour Jérusalem. Jérusalem, avec Melchizedek, roi de justice, et Salem, roi de paix, enfin, ville de paix. Jérémie, chapitre 33, verset 16. Nous trouvons l'avenir ici, un avenir qui est merveilleux. Là, je vous ai tracé brièvement Jérusalem en prophétie, et encore je ne vous ai pas donné du tout toutes les prophéties à propos de Jérusalem, mais un aperçu. Jérémie chapitre 33, verset 16. En ce jour-là, ces jours-là, Judas sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure, parce que Jérusalem sera en paix, et voici comment on l'appellera l'Éternel notre justice. Donc, vous avez deux choses qui reviennent. Vous avez la paix et vous avez la justice. comme à l'époque de Melchizedek, dans Genèse chapitre 14. Et voici, on l'appellera l'Éternel notre justice. Car ainsi par l'Éternel Dieu, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Fondement de la paix, et il y a aussi la justice. Et il y aura du relationnel, c'est ce que nous avons également vu dans Zacharie. Il y aura un relationnel formidable à Jérusalem. Et Jérusalem sera un exemple pour le monde entier. Pour le monde entier.